Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons donc notre très importante série concernant la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 23 et notre thème sera « Combattre l'orgueil ». Voyez-vous, l'humilité, ça, ce n'est pas un trait de caractère en vogue dans notre monde moderne. On n'en fait guère l'éloge sur les plateaux de télévision. Elle est rarement mise en avant dans les discours de fin d'études. On n'invente pas les mérites dans les séminaires sur la diversité et on ne la trouve pas mentionnée dans la liste des valeurs fondamentales de l'entreprise. Et même, en consultant la rubrique pléthorique des ouvrages de croissance personnelle que proposent par exemple les librairies les mieux achalandées, eh bien vous ne trouverez pas beaucoup de titres qui fassent l'éloge de l'humilité. La principale explication n'est pas difficile à trouver. L'humilité ne peut survivre que dans la présence de Dieu. Si Dieu n'est plus là, l'humilité non plus. Il m'arrive des fois de répéter deux fois une parole, une phrase, et c'est l'Esprit Saint qui me montre que c'est important. Donc, je dis que l'humilité ne peut survivre que dans la présence de Dieu. Si Dieu n'est plus là, l'humilité, elle n'est plus là non plus. En fait, on peut dire que l'humilité suit Dieu tel, en somme, comme une ombre. Voyez-vous, chers amis, certains se raccrochent naïvement aux souvenirs nostalgiques de Dieu. J'ai dit de Dieu. Le paroissien moyen, il met à part quelques heures dans la semaine pour faire l'expérience du sacré. Mais le reste du temps, il est immergé dans une société qui ne reconnaît plus Dieu comme étant une force omnisciente et omnipotente qu'il convient d'aimer et qu'il convient d'adorer. Nous sommes donc aujourd'hui beaucoup trop sophistiqués pour Dieu, bien trop savants. Oui, nous pouvons nous débrouiller tout seuls. Nous sommes aptes à peu près à choisir et à définir nos propres existences. Or, il est bien clair que l'humilité ne peut survivre au milieu d'un tel environnement. Elle passe en effet à la trappe avec Dieu. Voyez-vous, quand Dieu est délaissé, c'est le prétendant qui prend sa place. C'est-à-dire, ça peut être l'homme, ou ça peut être l'ennemi de l'homme qui l'influence. Et vous savez qui c'est. Et ça, c'est par définition l'opposé de l'humilité, à savoir l'esprit hautain. C'est un esprit hautain qui porte le nom d'orgueil. Même l'air que nous respirons est hostile à l'humilité. L'objet de cette étude est de montrer que l'esprit hautain est une des expressions de l'incrédulité et que c'est par la foi dans la grâce à venir qu'il convient de combattre cette forme d'incrédulité que est l'orgueil. La confiance en Dieu, c'est donc l'arrogance, oui, et l'arrogance, c'est évidemment l'opposé de la confiance en Dieu. Celui qui a de vastes ambitions excite les querelles, est-il dit dans les Proverbes chapitre 28, verset 25, mais celui qui se confie en l'Éternel est dans l'abondance, j'ai dit Proverbes 28, verset 25. Il peut arriver, une fois que je me trompe, alors veuillez noter les indications pour vérifier. La traduction d'Arbi, elle nous dit sur le proverbe 28, vers 25, que celui qui a l'âme altière excite la querelle, mais qui se confie en l'Éternel sera engraissé. Donc une fois rempli d'orgueil, c'est une contradiction aussi grande qu'un diable qui serait rempli d'humilité. Est-ce que vous comprenez le sens? Une foi, la foi qui est remplie d'orgueil, ça c'est une contradiction qui est aussi grande qu'un diable qui serait rempli d'humilité. Pour bien comprendre pourquoi la foi et l'orgueil sont opposés, il nous faut revenir à la définition de la foi. Oh, il y a beaucoup à dire. Chacun pourrait dire des pages sur la foi, car c'est quelque chose d'important. Et il est vrai qu'on ne peut pas définir la foi d'une seule phrase, en tout cas pas bien. L'essence de la foi en Jésus-Christ consiste à venir à lui afin de trouver le contentement dans tout ce que Dieu est pour nous en lui. Jésus a déclaré du reste lui-même, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif ni faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Saint Jean, chapitre 6, verset 35. Nous pouvons donc en déduire la vérité suivante. De avoir la foi en Jésus, c'est venir à lui afin de trouver le contentement dans tout ce que Dieu est pour nous en lui. Et à l'inverse, c'est de faire preuve d'incrédulité, c'est se détourner. Faire preuve d'incrédulité, c'est donc se détourner de Jésus, afin de chercher le contentement ailleurs. Voyez-vous, la foi, elle n'est pas simplement l'acceptation d'un certain nombre d'éléments dans sa tête, mais c'est aussi une soif de Dieu dans son cœur. Oui, une soif qui cherche à être satisfaite en Jésus. Il est dit que celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Par conséquent, la vie éternelle n'est pas donnée à ceux qui pensent simplement que Jésus est le Fils de Dieu. Elle est donnée à tous ceux qui boivent à la source de Jésus en le reconnaissant comme étant le Fils de Dieu. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle, nous est-il dit dans Saint Jean, chapitre 4, verset 14. Il est aussi le pain de vie, et ceux qui se nourrissent de lui et qui cherchent en lui le contentement vivent par lui. Jésus dit, c'est moi qui suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Saint Jean chapitre 6, verset 51. Le but de ces images, où il est question de boire et de manger, c'est de bien nous faire comprendre quelle est l'essence de la foi. La foi ne consiste pas seulement à croire que l'eau et la nourriture existent, pas plus qu'elle ne consiste seulement à croire que Jésus est une eau et une nourriture vivifiante. La foi, elle consiste à venir surtout à Jésus afin de boire l'eau et de manger la nourriture qu'il nous offre, et cela de manière à ce que notre cœur trouve le contentement en lui. Quelqu'un m'a dit récemment, c'est assez facile ce que vous faites, mais je vous dirais simplement que avec 20 à 30 ans de moins, et ça serait encore beaucoup plus facile, d'accord. Et à passer 90 ans, je dirais, je ne pourrais jamais le faire, croyez-moi, car je suis tout de même un ignare, je ne pourrais jamais le faire sans l'aide de l'Esprit-Saint. Jamais. Impossible. Ça, c'est dans mon cas. Mais il est vrai qu'avec 20 à 30 ans de moins, c'est différent. Bref, ne nous plaignons pas, c'est déjà un miracle comme ça. Chers amis, à partir de là, il est donc beaucoup plus facile de voir et de comprendre que l'orgueil est une forme d'incrédulité. En effet, faire preuve d'incrédulité, ça, c'est se détourner de Dieu et de son Fils bien-aimé afin de rechercher le contentement ailleurs et ainsi de faire preuve d'orgueil. C'est se détourner de Dieu spécifiquement dans le but de trouver le contentement en soi-même. L'orgueil est donc une forme spécifique d'incrédulité, tout simplement. Ça vous valait la peine de le répéter. Et l'antidote à l'orgueil consiste donc à susciter et à renforcer la foi dans la grâce à venir. C'est peut-être difficile à comprendre pour certains, mais je répète et puis vous comprendrez. « L'antidote à l'orgueil consiste à susciter et renforcer la foi dans la grâce qui est à venir. » Ça peut être même après notre mort. Dans un prochain CD, nous verrons que la convoitise c'est se détourner de Dieu, en général, afin de trouver le contentement dans les choses matérielles. Et nous verrons également que la luxure, c'est se détourner de Dieu, afin de trouver le contentement dans une sexualité totalement déréglée, comme de nos jours. Nous verrons aussi que l'amertume, c'est se détourner de Dieu, pour trouver le contentement dans la vengeance. Voyez-vous, pour ce qui est de l'impatience, c'est se détourner de nouveau de Dieu pour trouver le contentement dans son plan d'action personnel que rien ne doit perturber. Quant à l'anxiété, eh bien la honte inappropriée et le découragement, ce sont divers états de cœur, du cœur, qui surviennent lorsque ces formes d'incrédulité ne produisent pas l'effet recherché. Mais plus profonde encore, plus profondément encore que toutes ces tournures d'incrédulité ou ces formes d'incrédulité, il y a celle surtout de l'orgueil. Car c'est bien là la recherche de l'indépendance absolue et de la glorification de soi-même qui sous-entend toutes ces autres attitudes du cœur marquées par le péché. Se détourner de Dieu pour chercher ailleurs, quel que soit l'objet de notre quête, suppose forcément une forme d'autonomie ou d'indépendance, ce qui est l'essence même de l'orgueil. En effet, se détourner de Dieu, c'est tout simplement de partir du principe que l'on sait beaucoup mieux que Dieu. Et chaque fois que l'on se détourne de Dieu, c'est donc l'orgueil. Oh oui, c'est l'orgueil qui en est la cause. Il est l'orgueil, la racine de tout manque de confiance à l'égard de Dieu. Ou plus exactement, L'orgueil n'est pas tellement la racine que l'essence même de l'incrédulité, et son remède, c'est la foi dans la grâce, de nouveau, de la grâce à venir. Par conséquent, combattre l'orgueil, c'est de combattre l'incrédulité et prôner l'humilité. Ça, c'est donc prôner la foi et de nouveau la foi dans la grâce à venir. Alléluia. Quand on étudie les passages bibliques qui ont trait à l'orgueil, on constate qu'ils font référence à différentes façons de marquer de confiance, de manquer plutôt de confiance. Oui, nous manquons de confiance à l'égard de Dieu. Chaque texte relatif à l'orgueil révèle en effet ce pourquoi nous refusons de faire confiance à Dieu. Ou plus précisément, chacun d'eux montre ce que nous préférons trouver en nous-mêmes plutôt que en Dieu. En Jérémie chapitre 9, verset 22, Dieu déclare que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Dans ces trois exhortations, Dieu désigne ses grands concurrents aux égards à ce dont le cœur de l'homme se glorifie. Chacun d'eux, j'ai dit la sagesse, la patience et la richesse, chacun d'eux nous pousse donc à chercher le contentement en nous-mêmes, en moi-même, dans notre intelligence et notre force et en nos moyens matériels. Chacun d'eux nous incite donc insidieusement à ne pas faire confiance à Dieu pour nous apporter le contentement par excellence. Or, c'est une vraie marque d'humilité que de simplement confesser que la source de toute notre joie réside vraiment à l'extérieur de nous-mêmes. Prenez la sagesse et l'intelligence, par exemple. L'apôtre Paul nous met en garde. Il dit « La connaissance rend orgueilleux. Or, l'amour lui fait grandir dans la foi. » 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Cela ne signifie pas, pour autant, que l'apôtre Paul soit en faveur de l'ignorance et de l'irrationalité. Non, ne soyons pas stupides. Il dit, frères, ne raisonnez pas comme des enfants, mais soyez des enfants par rapport au mal, mais surtout soyez des adultes quant à la façon de raisonner. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Le mal dont nous souffrons est une humilité qui n'est pas, on peut dire, qui n'est plus à sa place. La retenue a ainsi quitté l'organe de l'ambition. La retenue, elle s'est fixée sur l'organe de la conviction, endroit où elle n'aurait jamais dû se trouver. L'homme était censé de douter de lui-même, surtout, et ne pas douter de la vérité. Or, c'est devenu exactement l'inverse, car de nos jours, l'élément de sa personne que l'homme affirme avec force est précisément celui qu'il ne devrait pas affirmer, c'est-à-dire lui-même. L'élément à propos duquel il doute est précisément celui au sujet duquel il ne devrait pas douter, c'est-à-dire de la raison divine. J'espère que vous avez bien compris cela, mais je pourrais le répéter parce que c'est quand même difficile à comprendre parfois du premier coup. Le mal dont nous souffrons est une humilité qui n'est plus à sa place. La retenue a quitté l'organe de l'ambition. La retenue s'est fixée sur l'organe de la conviction, endroit où elle n'aurait jamais dû se trouver. L'homme était donc censé de douter de lui-même et surtout ne pas douter de la vérité. Or, c'est devenu exactement l'inverse. De nos jours, l'élément de sa personne que l'homme affirme avec force est précisément celui qu'il ne devrait pas affirmer, c'est-à-dire lui-même. L'élément à propos duquel il doute est précisément celui au sujet duquel il ne devrait pas douter, c'est-à-dire de la raison divine. L'apôtre Paul ne remet nullement en question la nécessité d'avoir de fermes convictions et une véritable connaissance. Néanmoins, il a très bien compris que ce que nous savons ou croyons savoir, cela peut nous inciter à ne plus nous en remettre à la sagesse de Dieu et à nous enorgueillir plutôt de la nôtre. Voyez-vous, l'organe de la connaissance nous a été donné pour nous permettre à connaître Dieu et de comprendre le rapport qui existe entre le monde et Dieu. Une des premières choses qu'apprend le chrétien quand il en vient à le connaître comme il se doit, cette parole de Jésus qui dit « Ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. » Oh non, ce n'est pas par toi-même. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Saint Matthieu chapitre 16, verset 17. Toute véritable connaissance provient donc de Dieu. De Dieu qui a été le conseiller du Seigneur. En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. Romains chapitre 11, versets 34 et 36. Si Dieu nous a donné la capacité de raisonner, ce n'est pas seulement pour que nous parvenions à la connaissance, mais pour que nous ayons une juste connaissance des choses. Or, pour cela, nous devons nous glorifier ou nous devons nous placer en quelque sorte notre fierté dans la source de toute connaissance et non dans notre petite puce électronique qui se trouve dans notre cerveau tellement fragile avec son minuscule circuit conçu par Dieu. Dieu n'a pas choisi un grand nombre de sages, déclare l'apôtre. Pourquoi cela? Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par contre, si quelqu'un veut éprouver la fierté, qu'il place sa fierté uniquement dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 29 et 31. Quand l'homme se vante trop de sa sagesse, il montre par là qu'il s'est détourné de Dieu afin de placer sa confiance uniquement en lui-même. Il révèle ainsi que son contentement ne se trouve pas avant tout dans l'infinie sagesse de Dieu, mais dans ses capacités très limitées. Et je reconnais que mes capacités sont plus que limitées. Je le reconnais. Il manque ainsi de foi dans la grâce à venir. Voyez, on a de nouveau ce mot. Nous manquons ainsi la foi dans la grâce à venir, c'est-à-dire dans la promesse de Dieu qu'il utilisera jusqu'au bout sa sagesse pour faire fonctionner l'univers pour le bien de tous ceux qui espèrent en lui, en Dieu. De la même manière, nous avons tendance à nous glorifier de notre puissance. Quand Dieu nous fait la grâce de nous envoyer une bénédiction, nous nous empressons de nous en attribuer le mérite, comme si nous éprouvions davantage de satisfaction à faire mousser nos modestes moyens que à être au bénéfice de ceux de Dieu uniquement. Nous avons pourtant été sérieusement mis en garde en Deutéronome, chapitre 8, versets 12 à 17, car là il est dit, Deutéronome se trouve donc au début de votre Bible, il est dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce qui est à toi se multipliera, alors prends garde. Prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir. Rappelle-toi du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et pour t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Alors garde-toi, oui, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force et la vigueur de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Ne fais surtout pas ça. Si l'homme bâtissait ses maisons, multipliait ses troupeaux et amassait son or par la foi dans la grâce à venir, il ne lui viendrait pas à l'esprit de dire « C'est uniquement ma force et ma vigueur qui m'ont acquis ces richesses. » C'est un mensonge. Celui qui vit par la foi dans la grâce à venir, il sait que tout ce qu'il parvient à acquérir dans sa vie, ce n'est que le produit de la grâce. Chers amis, le roi de l'Assyrie est un très bel exemple de façon dont l'orgueil enfle dans le cœur de l'homme lorsque la sagesse et la puissance s'allient pour détourner son cœur de Dieu et pour l'entraîner vers l'autosatisfaction. Dieu avait fait de ce fameux roi le bâton de sa justice, de sa juste colère. Excusez-moi, je répète, donc, parce que j'ai loupé, j'ai mal exprimé. Dieu, nous est-il dit dans Ésaïe chapitre 10, verset 5, Dieu avait fait de ce roi de la Syrie le bâton de sa juste colère contre le peuple d'Israël. Cependant, au lieu de se réjouir d'avoir pu bénéficier des conseils et de la puissance de Dieu, il s'est attribué le mérite de ses victoires et il a déclaré « Mais c'est par ma propre force que j'ai fait tout cela et grâce à mon habileté, car je suis moi, oh là là, très intelligent. Moi, j'ai déplacé les frontières de nombreux peuples et pillé leurs trésors. Et comme un homme fort, j'ai détrôné des rois. » Ésaïe chapitre 10, verset 13. Quelle humilité! Ce n'était pas très malin, car voyez-vous, Dieu ne partage pas du tout sa gloire avec les orgueilleux, oh non. D'ailleurs, il a pris cet engagement. J'interviendrai contre le roi de la Syrie à cause de ses pensées orgueilleuses et de son regard arrogant. Ésaïe chapitre 10, verset 12. Donc pour le roi, l'antidote à son orgueil était de prendre au sérieux cette menace et de trouver son contentement dans la puissance et dans la sagesse de Dieu et non pas dans la sienne. C'était une grande erreur. Un peu plus tard dans l'histoire d'Israël, le roi de Babylone, oh là là, c'était pas n'importe qui. On l'appelle des fois Nebuchadnezzar ou Nebuchodonosor. Il fut abaissé en raison de la vantardise dont il avait fait preuve quand il a déclaré « N'est-ce pas là ?» La Babylone, la grande, que moi j'ai bâti pour en faire une résidence royale. C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait tout cela. Daniel chapitre 4, verset 27. Et à cause de ces paroles terriblement orgueilleuses, Dieu l'humilia et lui a même fait manger de l'herbe au milieu des champs, tel un bœuf. Daniel chapitre 4, verset 30. Jusqu'à ce qu'il a appris à se réjouir de la puissance souveraine de Dieu, tellement supérieure à la sienne. Voici du reste les paroles de Daniel chapitre 4, verset 32 à 34. Écoutez bien, devant lui, devant Dieu, tous les habitants de la terre ne comptent pour rien. Il agit comme il l'entend envers l'armée des êtres célestes et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui dire « Que fais-tu là ?» Maintenant, moi, Nabucodonosor, eh bien maintenant je loue et j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. C'était dans son cas. Daniel 4, verset 32 à 34. Pour Nebuchodonosor ou Nebuchadnezzar, l'antidote à son orgueil ne fut pas simplement une connaissance nouvelle dans sa tête, mais ce fut une exultation nouvelle qui se trouve dans son cœur. Sa louange et son exultation étaient donc le signe de sa foi naissante et de sa joie de constater que Dieu était le maître de l'avenir et qu'il exerçait sa grâce toute puissante et qu'il accomplissait ses desseins et qu'il abaissait les orgueilleux. Dorénavant, il trouvait son contentement dans la prérogative divine qui permet à Dieu d'agir comme il entend, selon la liberté souveraine de sa justice et de sa grâce. Chers amis, à côté de la sagesse et de la puissance, l'argent est sans doute la plus grande force qui nous pousse à l'orgueil. En effet, l'argent nous permet d'acheter les moyens que nous n'avons peut-être pas par nous-mêmes. En matière d'intelligence parfois, et surtout de pouvoir. Aussi la richesse est-elle le grand symbole de l'autorité l'autosuffisance. Ce sentiment de n'avoir besoin de rien, de n'avoir besoin de personne, car tout est à notre portée. Je peux tout acheter, moi. Oh, j'ai fait faillite, j'ai tout perdu. Donc, il n'y a plus rien à perdre. Merci Seigneur. Si quelqu'un a du flair en bourse, ou peut-être de la chance au loto, comme à présent il y a, vous savez, euro-millions, cela compense son éventuel déficit en termes d'autres compétences ou de pouvoir, car il possède désormais, il possède la maîtrise des moyens qui lui permettent de satisfaire tous ses désirs, ou du moins ce qu'il croit. Et cela mène évidemment au résultat que décrit Dieu dans Osée, chapitre 13, verset 6. Lorsqu'ils sont arrivés dans de gras pâturages, ils se sont rassasiés quand ils furent repus, eh bien, voici que l'orgueil les a saisis et ils m'ont oublié. L'orgueil est donc lié à la question de savoir de quoi l'on se rassasie, c'est-à-dire où l'on trouve son contentement. Il est dit, lorsqu'ils sont arrivés dans de gras pâturages, ils se sont rassasiés. Leurs besoins ont donc été satisfaits. Ce qui revient à dire que l'orgueil est vraiment lié à la question de savoir où l'on place sa confiance pour l'avenir. C'est bien la raison pour laquelle en Jérémie, chapitre 49, verset 4, Dieu fait référence à la confiance pour reprocher à Israël son orgueil. Pourquoi te glorifier de tes vallées? Oui, de tes vallées ruisselantes, peuple rebelle. Tu places ta confiance dans tes trésors et tu te dis, qui viendra m'attaquer? Israël place donc sa confiance dans des trésors pour garantir son avenir face au risque d'invasion par des armées ennemies. Sa foi ne se trouve donc pas dans la grâce de Dieu à venir. Et c'est bien là le problème. Le peuple s'est laissé entraîner dans une illusion qui est faite de délices factices. C'est du virtuel, des trésors qui sont eux-mêmes des dons de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul aurait pu lui demander comment il le fit aux Corinthiens, où il est dit, qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisque on t'a donné tout, pourquoi tu t'en vantes? Tu t'en vantes comme si tu ne l'avais pas reçu. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Oui, tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu de Dieu. Tout est dans sa main, à prendre ou à laisser. Et c'est à nous qu'il appartient d'en faire ou non un bon usage. Et c'est pourquoi la Sainte Bible ne se lasse jamais de répéter ce fameux message. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. La richesse permet certes d'acheter des armes sophistiquées, d'acheter des guerriers, mais si le Seigneur ne décide pas d'accorder la délivrance et la victoire, eh bien tout cela sera bien inutile au jour du combat. C'est la grâce à venir, et non pas la puissance militaire, qui constitue l'espoir suprême des rois et des guerriers, et de tout homme. Et c'est pourquoi les versets qui suivent dans le psaume 33 nous présentent un autre trésor dans lequel placer notre confiance. Il est dit « Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le révèrent. Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours et il est notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu Saint. » Psaume 33, versets 18, 20 et 21. Je prends parfois des versets dans mes versions allemandes, puisque je suis de langue allemande, mais ne vous en faites pas. C'est à peu près pareil chez vous. Chers amis, cette confiance qui se détourne de nos capacités humaines et s'en remet pleinement à Dieu est précisément ce que j'entends parfois par la foi dans la grâce à venir. Et c'est le vrai remède à l'orgueil. Chers amis, quand se conjuguent les trois facteurs qui poussent à la tentation de l'autosuffisance, tels que la sagesse, la puissance et la richesse, eh bien cela constitue une incitation très forte à la forme suprême de l'orgueil, à savoir l'athéisme. Oh, il y en a aujourd'hui plus qu'on croit, plus que des chrétiens, les athées, les non-croyants totaux. Le moyen le plus sûr de conserver sa suprématie à ses propres yeux, c'est de nier tout ce qui se trouve au-dessus de soi. C'est la raison pour laquelle l'activité principale des orgueilleux est de garder les autres du haut. Oh oui, l'orgueilleux regarde toujours de haut les objets et les personnes. Or bien évidemment, tant qu'on a le regard tourné vers le bas, on ne peut voir ce qui se trouve au-dessus de soi. Cela dit, pour préserver son orgueil, il est sans doute plus simple de déclarer ou de décréter qu'il n'y a rien à regarder au-dessus. Oui, le méchant dans son organe, on peut dire dans son arrogance surtout, parce que les méchants sont souvent arrogants. Et là, il déclare, « Oh, vous savez, personne n'a jamais vu Dieu, car Dieu n'existe tout simplement pas. » Il ne va pas chercher plus loin du tout. Et c'est là le fond de sa pensée, selon le psaume chapitre 10, verset 4. En fin de compte, voyez-vous, l'orgueilleux, il est forcé de se persuader lui-même que Dieu n'existe tout simplement pas. Une des raisons en est que la réalité de Dieu envahit de façon irrésistible tous les détails de l'existence. Eh oui, l'orgueilleux ne peut tolérer que Dieu s'intéresse de près à nous en allant jusqu'à organiser les circonstances pratiques de notre vie. Par exemple, Jacques, le frère de Jésus, il impute à l'orgueil la simple prétention de vouloir organiser ses déplacements d'une ville à l'autre. Voici ce qu'il dit en Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Le savez-vous vraiment? Qu'est-ce que votre vie? C'est une simple brume légère, visible, quelques instants seulement, et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous deviez dire. Oui, voici ce que vous devriez dire. Vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, hélas, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est absolument mauvais. Oui, car celui qui se fait faire le bien, qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, eh bien, il se rend coupable d'un péché. Je répète, celui qui sait faire le bien, mais ne le fait pas, il se rend coupable d'un grand péché. Saint Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. Et partant de là, l'orgueil a dû beaucoup de mal avec l'existence de Dieu, puisque Dieu est souverain. Il peut l'exprimer par exemple ainsi: « Oh oui, Dieu n'existe pas. » Ou bien en disant: « Eh bien, je vais aller à tel endroit pour Noël. » Or, Jacques nous dit ceci. Écoutez bien. Ne soyez pas si sûr de vous, mais dites plutôt, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous irons à tel endroit pour Noël. Jacques, le frère de Jésus, veut dire par là que c'est Dieu qui décide si nous irons à tel endroit ou pas, et si vous allez mourir ou non, avant même la fin de cette étude. Et oui, c'est surtout dans mon cas. Si le Seigneur le veut, nous vivrons. Et voilà quelque chose d'extrêmement choquant pour l'autosuffisance dans l'orgueil, c'est ne même pas pouvoir maîtriser le fait d'aller jusqu'à la fin de cette étude sans avoir une attaque. Je vous raconterai une histoire vraie. J'étais chez le médecin il y a quelque temps de cela, et là, il y avait un patient avant moi dont le médecin cardiologue lui a dit: tout va bien pour vous. Extra. Vous allez encore vivre des années heureux. Et c'est authentique ce que je vous dis, parce que ça paraît invraisemblable. Moi-même, j'aurais du mal à le comprendre si je n'avais pas été le témoin. Voilà que ce patient quitte avec l'ascenseur la maison, il traverse la rue et il s'effale une attaque foudroyante et il est mort sur le coup. À peine sorti de chez le médecin cardiologue qui lui a dit: tout va extra, vous allez encore vivre des années heureux. Ah là là, ça donne à réfléchir. Et comment? Merci Seigneur, pour chaque jour que tu permets que je peux continuer ce travail. C'est miraculeux. C'est plus qu'un miracle, il n'y a pas de mots, c'est sublime. Saint Jacques explique que c'est faire preuve d'arrogance que ne pas reconnaître le droit souverain de Dieu à gérer les détails de notre avenir. Et pour combattre cette arrogance-là, nous devons accepter la souveraineté de Dieu dans tous les détails de notre vie et nous en remettre à ses promesses infaillibles, car il s'est engagé à intervenir puissamment en notre faveur, en votre faveur. 2 Corinthiens chapitre 16, verset 9. À ce que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie, selon le psaume 23, verset 6, et à agir en faveur de tous ceux qui s'attendent à lui, et à nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre à sa gloire. Autrement dit, le remède à l'orgueil est une foi inébranlable dans la grâce à venir. Voyez-vous, une des manifestations de l'orgueil, je ne sais pas si on aura le temps d'arriver jusqu'au bout, essayons, une des manifestations de l'orgueil qui montre son aversion pour la foi dans la grâce à venir, c'est l'immense besoin de gratification qu'il génère. Et voici comment fonctionne ce mécanisme. Le plaisir de l'orgueil est semblable au plaisir de se gratter. En cas de démangeaison, on a effectivement envie de se gratter, mais il est nettement plus agréable de ne pas ressentir de démangeaison et de ne pas se gratter. Tant que nous ressentirons la démangeaison de l'amour propre, nous voudrons ressentir le plaisir de l'autogratification, mais les moments les plus grands, des moments du plus grand bonheur, ce sont ceux où nous oublions notre précieux moi et où nous n'avons ni l'un ni l'autre, mais tout le reste à la place, c'est-à-dire Dieu. Oui, Dieu nous donnera tout ce que nous avons besoin. Donc, la démangeaison de l'amour propre génère le besoin irrépressible de se gratter pour ressentir le plaisir de l'autogratification. Autrement dit, si nous tirons du plaisir à nous sentir autosuffisants, nous ne pouvons être satisfaits que si les autres voient et qu'ils font l'éloge de notre autosuffisance. D'où cette description des scribes et des pharisiens donnée par Jésus dans Saint Matthieu chapitre 23. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Saint Matthieu 23, verset 5 à 7. Voilà donc un étrange paradoxe. L'autosuffisance devrait libérer l'orgueil du besoin que autrui, que d'autres fassent constamment un grand cas de lui. C'est bien ce que signifie se suffire à soi-même. Mais à l'évidence, il y a un vide dans cette prétendue autosuffisance. Car l'homme n'a jamais été appelé à trouver le contentement uniquement en lui-même, ni à se reposer uniquement sur lui seul. Car il lui est impossible de se suffire à lui-même, car nous avons été créés seulement à l'image de Dieu, et nous ne sommes pas Dieu. Oh, absolument pas. Nous ne sommes que des ombres et des échos du divin. Il y aura donc toujours dans notre âme un vide qui cherche désespérément à trouver le contentement en nous-mêmes. Ce besoin insatiable d'être encensé par autrui, cela signifie l'échec de l'orgueil et de l'absence de la foi dans la grâce à venir. Jésus observa la terrible conséquence de ce désir de la gloire humaine qui peut nous ronger. Il l'a décrit dans ce fameux passage de Saint Jean, chapitre 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous, qui recevez de la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? La réponse est justement que ce n'est pas possible. Le désir de la gloire humaine rend la foi impossible. Pourquoi? Mais parce que avoir la foi, c'est trouver le contentement dans tout ce que Dieu est pour nous en Jésus. Or, celui qui ressent cette fameuse démangeaison, il cherche systématiquement à la soulager en recevant les louanges d'autrui et il se détourne forcément de Jésus. Par contre, celui qui accepte de ne plus être pour lui-même la source de contentement, c'est-à-dire la repentance, et qui vient à Jésus pour bénéficier de tout ce que Dieu est pour nous en lui, c'est-à-dire la foi, il voit son besoin irrépressible remplacé par une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Saint Jean chapitre 4 verset 14. Et nous pouvons tous dire Alléluia. Le paradoxe de ce besoin insatiable qui démange l'âme autosuffisante, elle apparaît avec encore plus d'évidence lorsque l'orgueil, ne parvenant pas à obtenir ce qu'il désire, s'enlise en quelque sorte de plus en plus dans la faiblesse. Et cela demande toutefois du discernement, car cette forme d'orgueil que je qualifie d'orgueil faible n'est pas du tout facile à reconnaître. On pourrait croire une douce violence, par exemple, mais ce n'en est pas une. Considérons le rapport entre vantardise et apitoiement sur soi. Oui, essayons de considérer le rapport qu'il y a entre la vantardise et l'apitoiement sur soi-même. C'est difficile, ça. C'est pas tout à fait facile. Nous sommes là en présence de deux manifestations de l'orgueil, croyez-le ou pas. Tandis que la vantardise est la réponse de l'orgueil à la réussite, eh bien l'apitoiement sur soi-même est la réponse de l'orgueil à la souffrance. Ainsi la vantardise déclare-t-elle, je mérite l'admiration parce que j'ai réussi tant et tant, alors que l'apitoiement sur soi-même affirme, je mérite l'admiration parce que je me suis sacrifié tant et tant. Tandis que la vantardise est la voix de l'orgueil dans le cœur du fort, eh bien l'apitoiement sur soi-même, c'est la voix de l'orgueil dans le cœur du faible, là où la vantardise apparaît comme de l'autosuffisance, eh bien l'apitoiement sur soi-même apparaît comme un esprit de sacrifice. Je me suis sacrifié pour ma famille. Si l'apitoiement sur soi-même ne passe généralement pas pour de l'orgueil, c'est parce qu'il fait entendre un besoin. Cependant, ce besoin est le fruit d'un ego qui est blessé. Je répète, ce besoin, c'est le fruit d'un ego qui est blessé, et c'est le désir de celui qui s'apitoie sur son sort, et en réalité, il voudrait être considéré non pas comme un impuissant, mais comme un héros. Le besoin de celui qui s'apitoie sur son sort ne provient pas de ce qu'il se croit sans mérite, mais de ce qu'il estime son ou ses mérites non reconnus. C'est donc la raison de l'orgueil qui est blessé. Et quand l'orgueil n'est pas fort, il commence à s'inquiéter au sujet de l'avenir. Dans le cœur des orgueilleux, l'anxiété est à l'avenir ce que l'apitoiement sur soi est au passé. Conscient de ce qui a été négatif dans son passé, l'orgueilleux a le sentiment de mériter beaucoup mieux. Mais s'il n'est pas parvenu à obtenir ce qu'il voulait par le passé, il risque de ne pas y arriver non plus à l'avenir. Au lieu de conduire l'orgueilleux à l'humilité, cette éventualité le plonge dans l'anxiété. Tout cela n'est pas du tout facile à dire, croyez-moi, et je peux simplement vous dire, sans l'aide de l'Esprit Saint, je ne pourrai jamais le faire. Jamais. Chers amis, j'espère d'arriver au bout. Je l'espère. Voici un autre paradoxe qui est plein d'ironie. Aide-moi, Seigneur, à arriver jusqu'à la fin. Voyez-vous, l'anxiété, et je ne suis pas anxieux, j'ai confiance. L'anxiété n'a pas les traits de l'orgueil, mais elle a l'apparence de la faiblesse. Celui qui est inquiet semble reconnaître qu'il ne mérite pas l'avenir. Et c'est vrai que dans un sens, l'orgueilleux le reconnaît lui aussi. Mais cet aveu n'efface nullement l'orgueil tant que le cœur orgueilleux n'est pas prêt à regarder à celui qui maîtrise effectivement l'avenir et à s'en remettre uniquement à lui, à Dieu. Sans cela, l'orgueilleux continue de se cramponner à son droit à l'autosuffisance. Et il rendra compte beaucoup trop tard. Il se rendra compte beaucoup trop tard que cela n'a aucun avenir. Voyez-vous, la Sainte Bible nous en donne la preuve remarquable dans deux passages. Dans la première, c'est Ésaïe 51, versets 12 et 13. Dieu reproche à Israël son anxiété en lui démontrant l'orgueil qui se cache derrière ses craintes. C'est moi qui vous console. Comment donc peux-tu craindre l'homme? L'homme qui doit mourir, peut-être tout à l'heure, ou un humain qui a le même sort que l'herbe. Vous connaissez le sort de l'herbe. As-tu donc oublié l'Éternel qui t'a fait, qui a tendu le ciel et a fondé la terre? Comment peux-tu trembler sans cesse, tout le jour, parce que le tyran déchaîne sa fureur et se prépare à te détruire? En d'autres termes, pour qui te prends-tu pour avoir peur de simples hommes, même s'ils fabriquent aujourd'hui des robots dangereux, capables de tuer n'importe qui? Tu dois vraiment te prendre pour quelqu'un pour avoir peur à ce point. Certes, c'est une réprimande bien étrange, mais son sens est on ne peut plus clair, car ta crainte de l'homme est une forme d'orgueil, et oui. Pourquoi l'anxiété quant à l'avenir est-elle une forme d'orgueil? Pourquoi? Eh bien, Dieu nous répond lui-même. Il dit, « Moi, l'Éternel, ton Créateur, je suis celui qui te console, qui promet de prendre soin de toi, même si un drone va passer au-dessus de toi pour essayer de te tuer. Et ceux qui te menacent ne sont que de simples hommes mortels, eux aussi. Eh oui, ils ne le pensent pas. Ta crainte signifie donc forcément que tu ne me fais pas confiance. Tu penses sûrement que ta protection dépend de toi seul. Eh bien, que n'étant pas sûr de pouvoir te débrouiller par tes propres moyens, tu choisis quand même de compter sur tes ressources personnelles bien fragiles. Oh oui, plutôt que sur la foi dans la grâce à venir. Ah, c'est important de se rappeler de ça. Nous avons une grâce à venir. Et c'est là que sera notre bonheur éternel. Par conséquent, tu as beau te trembler aujourd'hui et sembler bien faible, ta crainte révèle uniquement ton orgueil. Alors le remède, cesse simplement de t'en remettre à tes propres forces et choisis maintenant de t'en remettre uniquement à Dieu et de placer ta foi dans la puissance pleinement suffisante de la grâce à venir. Le deuxième passage dans lequel l'anxiété est présentée comme une forme d'orgueil, c'est 1er épître de Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Notez le rapport grammatical entre les versets 6 et 7 de 1 Pierre chapitre 5. Tenez-vous humblement sous la main puissante de Dieu votre Papa céleste. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Le verset 7 est la suite directe du verset 6. C'est une proposition subordonnée. C'est comme si l'apôtre Pierre avait écrit « Tenez-vous humblement en vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. » Cela signifie que ce décharger sur Dieu de ses soucis est une façon de se tenir humblement sous la puissance de Dieu. Je répète, cela signifie que de se décharger sur Dieu de nos soucis, c'est une façon de se tenir humblement sous la main très puissante, toute puissante de Dieu. C'est comme lorsque on dit « mange proprement en mâchant la bouche fermée » ou « conduis prudemment en gardant les mains sur le volant ». Bientôt, évidemment, il y aura les voitures volantes et même sans chauffeur. Quel monde ! Une manière d'être humble consiste donc à se décharger sur Dieu de ses soucis. Ce qui signifie que qu'un des obstacles à cette attitude est évidemment l'orgueil. Donc l'anxiété excessive, c'est une forme d'orgueil. Mais à présent, pourquoi le fait de se décharger sur le Seigneur de ses soucis est-il l'inverse de l'orgueil? Pourquoi? Eh bien parce que l'orgueil n'aime pas avouer, il n'aime pas l'orgueilleux de dire « j'ai des soucis, je suis en panique, je suis déprimé ». Et s'il est contraint de l'avouer, il n'aime pas de reconnaître là encore que le remède pourrait pourtant consister à faire confiance à quelqu'un de beaucoup plus sage et de beaucoup plus puissant. Autrement dit, l'orgueil est une forme d'incrédulité et il n'aime pas faire confiance à la grâce à venir. Alors que la foi reconnaît qu'elle a besoin de beaucoup d'aide, l'orgueil refuse de l'admettre. Alors que la foi compte sur Dieu pour l'aider, l'orgueil s'y refuse. Alors que la foi se décharge sur Dieu de tous ses soucis, l'orgueil refuse de le faire. Par conséquent, pour combattre cette forme d'incrédulité que est l'orgueil, il faut reconnaître ouvertement que l'on a des soucis et à garder précieusement dans son cœur cette promesse de grâce à venir. Il, Dieu, prendra soin de vous. Il a pris soin de moi. J'étais entre la vie et la mort au moins 7 à 8 fois et il a pris soin de moi jusqu'à passer 90 ans. Terminons ce CD, si vous voulez bien, en nous arrêtant quelques instants sur les conseils que Dieu donna pour la bouche ou par la bouche de Jérémie. Nous avons entendu le prophète qui a déclaré que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Nous terminons en l'entendant conclure par ces mots, que celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, c'est d'avoir l'intelligence de me reconnaître moi qui suis l'Éternel ton Dieu, l'Éternel qui agit avec bienveillance et qui exerce le droit de la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel te déclare encore dans Jérémie tout cela, chapitre 9, versets 22 à 23. Voilà, en fin de compte, la réponse définitive de la Sainte Bible à la question de savoir quel est le meilleur moyen de combattre l'orgueil. Être dans l'émerveillement et être dans le contentement d'uniquement de connaître Dieu et de ce qu'il nous connaissent. Je dois m'employer à avoir une haute opinion de Dieu seul. L'abnégation et la crucifixion de la chair sont donc primordiales, mais ô combien il est facile d'être admiré même pour mon abnégation. Comment mettre fin à ce motif de plaisir insidieux, sinon je dois soumettre en tout mes facultés d'être heureux au plaisir d'avoir une haute opinion de Dieu seul. Je répète, comment mettre fin à ce motif de plaisir insidieux, sinon, eh bien, je dois tout simplement soumettre toutes mes facultés d'être heureux au plaisir d'avoir une très haute opinion de Dieu seul. La solution définitive, c'est quelque chose de plus profond que la mort à soi-même. Il est donc nécessaire, chers amis, de s'enfoncer plus profondément dans le tombeau de la chair pour trouver le torrent véritable libérateur de l'eau miraculeuse qui délecte l'homme en lui permettant de savourer la gloire de Dieu. La mort à soi-même ne se trouve que dans cette admiration muette qui procure le contentement parfait. C'est ce sentiment profond, c'est cette admiration qui procure le contentement parfait à l'égard de tout, absolument de tout ce que Dieu est pour nous en Jésus-Christ, que j'appelle la foi dans la grâce à venir. Amen. Chers amis, nous n'avons plus le temps de dire grand-chose. Une toute petite prière pour terminer, s'il vous plaît. Ô Seigneur, Dieu de sainteté, fais naître en nous une foi vivante en ton Fils Jésus-Christ, et sois toi-même notre rocher et notre forteresse. Fais luire en nous aussi quelque chose de la joie victorieuse et de la foi triomphante qui ont transfiguré le visage de ton Fils bien-aimé. Amen. Chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série, et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose qui m'arrive dans la bouche simplement tout cuit, automatiquement. Cela demande beaucoup de travail, surtout, évidemment, à un âge un peu avancé. À demain matin donc, mes chers amis, et sachez que je vous aime. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez bien, Dieu vous aime. Alléluia. Amen.